Pour la fête de l'apôtre Jacques, l'Église nous propose ces deux lectures, d'une part Corinthiens, et puis l'Évangile selon saint Matthieu. Plusieurs choses. Si l'on prend directement l'épître de Paul, il y a cette phrase assez bouleversante et sur laquelle on pourrait passer rapidement. Nous sommes porteurs d'un trésor. Nous sommes porteurs d'un trésor et pourtant personne ne cherche à nous le dérober, apparemment. On ne se fait pas braquer dans la rue en nous disant « Donnez-nous votre trésor » et pourtant c'est un trésor, mais nous le portons dans des poteries sans valeur. Ça ne veut pas dire que nous n'ayons pas de valeur, ça veut dire que le trésor, par rapport à l'emballage, si on peut parler de nous ainsi, est sans proportion. Et c'est important que nous ayons déjà cette certitude de foi que nous portons un trésor. Et que ça ne se voit pas forcément, mais que c'est une réalité. C'est révélé, hein, c'est important. Et alors, il y a tout de même ceci, c'est que Paul évoque la puissance extraordinaire. Est-ce que nous avons conscience de la puissance qui habite en nous ? Nous ne sommes pas des apôtres, nous sommes des disciples. Je pense que cette affirmation de Paul vaut précisément pour chacun, hein, quand il dit nous. Nous sommes porteurs d'un trésor avec une puissance extraordinaire. Est-ce que nous en faisons usage ? Et finalement, cette puissance, c'est quoi ? Ben, c'est la puissance de la vie. Et c'est la puissance du vivant qui habite en nous. Et du reste, l'épître finit avec cette idée que il dit les apôtres, nous vivons nous dans la mort pour que vous viviez dans la vie. Voilà. La puissance de la vie. Alors, c'est une expérience qu'on peut faire notamment dans des enterrements, lorsqu'il y a des gens qui ne sont pas très croyants, qui sont venus tout de même, mais qui sont peut-être même pas du tout croyants. Et beaucoup de catholiques, en tout cas, font cette expérience que les gens se tournent vers eux comme si nous avions la réponse. Et c'est vrai que nous avons une réponse. Et elle se voit dans ces moments-là. Et parce que nous croyons à la résurrection de la chair, nous croyons qu'il y a quelque chose après, nous croyons que notre vie a un sens. Et tout ce qui est dans notre foi. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc voilà ce que peut-être nous pouvons tirer de ce don, de cette fête de Saint-Jacques sur l'Épître. Sur l'Évangile, il est un peu abrupt. C'est important, quand on a un passage comme ça, tiré de son contexte, d'aller regarder dans la Bible. Donc évidemment, on ne l'a pas dans le passage de l'Écriture, nous ne l'entendrons pas, d'aller regarder dans la Bible ce qui précède. Et ce qui précède est tout à fait intéressant, puisque il nous est dit que Jésus prend ses apôtres à part et leur a fait la troisième annonce de sa passion. Voilà ce qui va m'arriver. Et aussitôt fini, la mère de Jacques et Jean vient se prosterner. Alors on se dit, il y a quand même un truc bizarre dans cette affaire-là. C'est que Jésus les prend à part, mais la maman n'était pas loin. Bon, il faudrait jouer cette scène. Il faudrait jouer cette scène, en donner une interprétation, peut-être pour y comprendre quelque chose. Bon, moi je me figure qu'il y a tout un groupe qui suit Jésus, et précisément Jésus prend à part ses apôtres, parce qu'il y a tout un groupe derrière. Il leur dit ça, et puis... Et ils continuent à marcher, et puis les apôtres, c'est comme dans un groupe, on se laisse couler un peu, et la maman vient leur dire, alors il vous a raconté quoi ? Et j'imagine quelque chose comme ça, je n'en ai aucune preuve évidemment, hein. Mais voilà, et au fond, et cette mère, elle a un rôle très important. On pourrait dire, non mais dis donc, de quoi elle se mêle. Cette femme veut que ses enfants aient une place auprès de cet homme prodigieux qu'elle voit, qui est Jésus, dont elle croit qu'il est le Fils de Dieu, sinon elle ne le suivrait pas, qu'il est le Messie. Et nous avons l'intercession d'une femme pour ses enfants. C'est extrêmement intéressant. C'est une figure de la Vierge Marie ici. Cette femme qui dit, voilà, ordonne que mes enfants soient à ta droite et à ta gauche. Est-ce que la Vierge Marie ne demande pas ça aussi à Jésus en se prosternant devant lui? Ordonne que mes enfants soient à ta droite et à ta gauche, tous mes enfants. Et elle, elle n'en a pas deux, hein. Elle en a des millions. Ceci nous donne peut-être une idée de voir comment ça s'est passé. Et c'est intéressant aussi de voir comment Jésus accueille cette demande. Il ne la remet pas à sa place, hein. La Cananéenne, vous savez, elle se fermait à sa place, hein. Je suis venu pour les Juifs et pas pour les païens. Bon, là, il aurait pu dire, écoute, tu es gentil, mais ça ne te concerne pas. Non, Jésus accueille la demande de cette femme. Il est peut-être même bouleversé par cette femme. Et il est bouleversé par cette femme au point de lui dire, mais du coup il s'adresse aux fils, Jacques et Jean, et il leur dit, mais est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir boire ce que je vais boire? Et eux répondent, nos problèmes, tout est sous contrôle. Ou peut-être ils répondent, mais oui, c'est vraiment ce qu'on veut. C'est vraiment ce qu'on désire. Et si c'était sérieux, cette question, vous voyez, on peut la prendre comme des gens qui se la jouent, quoi. Et si elle était sérieuse, cette question, pourquoi on nous aurait mis ça dans l'évangile si c'était une question de un peu débile? Jésus entend la demande de cette femme et dit à ses fils, est-ce que vous allez pouvoir boire ma coupe? Et eux disent, écoute, c'est vraiment ce qu'on veut. Alors Jésus leur dit, ok, vous allez la boire. Vous allez la boire, ce que vous demandez, je vous l'accorde. Par contre, ce que vous avez demandé, ce que votre mère a demandé, je ne peux pas le donner. Vous voyez, c'est intéressant de voir comme il y a deux demandes, en fait. Il y a les deux apôtres, oui, je vous accorde, parce que sur les apôtres, j'ai pouvoir de l'accorder. Ce que ta mère a demandé, ce que votre mère a demandé, je ne peux pas l'accorder. C'est mon père qui l'accorde. Bon. Est-ce qu'ils se sont fait avoir? On verra tout à l'heure. Et comment les autres réagissent? Alors les autres, ils réagissent comme nous, hein. C'est-à-dire que, vous vous souvenez peut-être de l'histoire de la petite Thérèse, là. Je veux être une grande sainte et sa supérieure lui dit, c'est de l'orgueil. Voilà, quoi. Donc nous, on veut être à droite et à gauche. Non, mais les autres, ils se prennent pour qui? Voilà, donc les apôtres nous rappellent notre comportement habituel. Alors qu'il y a là une demande sincère, une réponse sincère. Et voilà, ça nous montre aussi à quel point ces apôtres, les dix, n'ont pas encore peut-être compris l'enthousiasme de Jacques et Jean, qui veulent y aller. Et ils ne savent pas très bien où, mais ils veulent suivre cet homme, en disant, écoute, voilà, nous on veut aller dans ton royaume, quoi. Et tu viens de parler de passion, on n'a pas très bien compris, mais on veut te suivre. Et c'est très beau, parce que c'est un bel écho à ce qu'on a lu en saint Paul. Nous, on veut la vie, quoi. Alors, on ne sait pas le prix, mais on veut vivre, et on veut vivre avec toi. Et Jésus, donc, je l'ai dit, parle de boire cette coupe. Alors, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Parce que c'est quand même important. Qu'est-ce que c'est que boire la coupe? Eh bien, boire la coupe dans la Bible, c'est partager le lot, c'est avoir part à l'héritage. Il y a quatre coupes chez les Juifs au moment du repas. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais boire à la coupe, c'est partager quelque chose avec quelqu'un. C'est vraiment important. Donc voilà, ils vont partager quelque chose avec Jésus. Et alors arrive finalement la question finale. Est-ce qu'ils ont été exaucés? Parce que c'est quand même ça qui est intéressant. Est-ce que finalement ils ont été exaucés? Jésus n'en a pas le pouvoir, ok, c'est ce qu'il dit, mais ont-ils été exaucés, oui ou non? Et nous découvrons là que Jacques est le premier apôtre martyr. Il encadre donc Jésus de son témoignage, tandis que Jean est le dernier apôtre à mourir, et il encadre donc Jésus de son témoignage. Le témoignage de l'un est le martyr. Bon, c'est un pléonasme, hein, témoignage et martyr. Martyr, ça veut dire témoignage. Mais je veux dire, le témoignage du premier est la mort violente. Et le témoignage du second, c'est ce Jean qui a écrit ce quatrième évangile, ses épîtres. Ce Jean qui a reçu Marie chez lui et que Marie a pris comme fils. Et c'est ce Jean qui a donc vécu probablement 20 ans avec Marie, puisque Marie doit avoir environ 50 ans à la mort de Jésus. Et les informations qu'on peut avoir qui ne sont pas révélées, elles ne sont pas dans la Bible, sont que Marie a dû vivre environ 20 ans après, donc 70 ans. Elle serait morte vers 60, enfin elle serait morte. L'assomption a lieu à 70 ans. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle n'est pas morte? Ça n'a pas été tranché. En tout cas, elle est montée au ciel avec son corps. Donc voilà, ils sont bien à droite et à gauche finalement. Alors ça nous dit quoi, nous? Ça nous dit qu'il faut peut-être faire des demandes, nous aussi. Peut-être Jésus nous dira, écoutez, est-ce que vous savez ce que vous demandez? Nous disons, mais Seigneur, on veut être avec toi. Ok, d'accord, vous allez être avec moi, voilà, bon, faut passer par là. Je serai avec vous. Et voilà, enfin, c'est très très profond finalement, cette fête de Jacques. C'est pas du tout un truc bêta, ils se prennent pour qui, quoi. C'est plutôt, ils ont pris Jésus pour qui? Ils ont pris Jésus pour Dieu, pour le Messie, pour le Sauveur, pour le Rédempteur. Est-ce que moi je prends Jésus pour tout ça? Est-ce que je porte ce trésor dans mon cœur? Ou est-ce que c'est sympa, la musique est bonne, ça va, les gens sont sympas? Ben voilà, quoi, jusqu'où est-ce que nous sommes concernés? Souvenons-nous que Jacques et Jean, c'est les fils du tonnerre, hein. C'est ce qu'aimerait bien faire un barbecue comme Élie, quoi. Est-ce que tu veux que le feu descende du ciel? Enfin, c'est des types qui en ont, quoi. Ils croient qu'ils peuvent demander à Dieu que le feu tombe du ciel et qu'il tombera, hein. Ils ont la foi. Voilà, est-ce que nous avons la foi aussi de cette puissance qui est en nous, dont nous nous servons habituellement pas du tout? Parce que par quoi d'abord on s'en sert pas? Si jamais ça marche, qu'est-ce qu'on va devenir? Essayons peut-être, puis voyons ce qu'on deviendra. On deviendra tout simplement des témoins, et c'est ce que Jésus nous demande, surtout dans notre monde du reste. Amen.